Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
8h39 à suivre dans le petit déjeuner de l'actu avec Philippe Bilger. On fera un point sur le débat entre Gérald Darmanin et Marine Le Pen. En attendant, qu'est-ce qui fait parler ce matin? C'est la revue de presse avec Félix Mathieu.
Oui, et Félix, c'est la planète Mars du côté de Libération.
Oui, Libé qui prend de la hauteur pour finir la semaine. Mars, the space to be, autrement dit, le dernier espace à la mode. Cible de 3 expéditions en quelques jours, la planète rouge est plus que jamais le nouvel horizon de la conquête spatiale, une sonde émirati, un robot chinois, un rover américain. La Terre débarque sur Mars. Dans Libération, d'ailleurs, le chercheur du CNRS, William Rapin, qui analyse les données du rover Perseverance américain, il explique espérer tomber sur une preuve irréfutable de la vie sur Mars.
Oui, c'est vrai. Un peu plus près de nous, mais toujours dans les airs, la fin d'une époque, c'est du côté du Parisien aujourd'hui en France.
Oui, avec la photo d'avion cloué au sol, le gouvernement annonçait hier l'abandon du monumental projet de 4e terminal de l'aéroport de Roissy, une décision motivée par la lutte contre le changement climatique, mais aussi, évidemment, par la crise de l'aérien après l'économie à l'arrêt durant cette année 2020 de pandémie. Et justement, malgré tout ça, l'économie européenne entrevoit la reprise, selon les échos. La Commission européenne table sur un net rebond au second semestre, même si le rythme des campagnes de vaccination sera décisif, mais la croissance pourrait s'élever à 3,7% pour 2021 dans la zone euro.
Vaucluse Matin qui consacre sa une du jour au parc de l'hôpital d'Avignon, désormais confié à une société privée.
Oui, avec cette conséquence pratique, les malades et les visiteurs devront payer le parking, nous explique Vaucluse Matin. 2 concessionnaires sont en lice pour gérer le stationnement et on les comprend, ça promet d'être lucratif. Dommage en revanche pour les malades et leurs familles, dossier à retrouver dans Vaucluse Matin. À Toulouse, les squatteurs quittent la maison de Roland, c'est la une de la Dépêche du Midi. Sous la pression, la vingtaine de squatteurs qui occupaient le lieu depuis septembre, ils ont quitté hier soir la maison de l'octogénaire. Et puis la crise psychologique n'épargne personne, nous dit l'indépendant catalan. La clinique du Roussillon affiche complet à Perpignan, conséquence de la crise sanitaire, des confinements et désormais du couvre-feu.
Oui, merci. Et puis à la une de l'équipe, une photo de Neymar blessé une nouvelle fois.
Oui, coup rude pour le PSG. Le Brésilien assis sur le terrain, le visage décomposé, et une fausse brisure de vitre sur cette une de l'équipe pour illustrer ce piège de cristal. C'est le titre, cette fragilité, ce talon d'Achille du joueur du PSG. Comme en 2018 et 2019, avant les huitièmes de finale de Ligue des Champions, Neymar, touché aux adducteurs, a déclaré forfait pour le match aller à Barcelone mardi prochain. Une blessure qui pourrait aussi lui faire rater son retour prévu le 10 mars.
Oui, alors ça, c'est une catastrophe pour les supporters parisiens. Merci à vous, Félix Mathieu. On poursuit notre revue de presse et on s'arrête puisque nous sommes en fin de semaine sur les magazines et notamment Le Point avec Étienne Gernel, le directeur du Point qui est avec nous. Bonjour Étienne.
Bonjour.
Et vous faites un focus sur la dette. Et vous titrez d'ailleurs Le Poker géant. C'est vrai que c'est la grande interrogation du moment, après évidemment la fin, ce qu'on espère du Covid un jour, quoi, de s'en sortir. Mais il y a la dette derrière, quoi, bien sûr.
Et oui, c'est un pari assez colossal parce que, en fait, il faut parier sur le fait que tout va bien se passer, voilà, qu'on ne va pas avoir de remontée des taux d'intérêt, qu'on ne va pas avoir. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, ça se passe plutôt bien. Les taux d'intérêt sont à zéro, parfois négatifs d'ailleurs. Et tout le monde emprunte de l'argent. La Banque Centrale Européenne crée beaucoup de monnaie, comme la Fed aux États-Unis, etc. Donc pour l'instant, il y a beaucoup d'argent et la dette est soutenable. Hein. C'est ce que disent la plupart des économistes, c'est qu'on peut la soutenir, sauf que y a un jour où ça ne l'est plus.
Ouais.
Et c'est un risque, effectivement. Et quand on voit que la dette de la France est à 120% du PIB, les Allemands, après un gros effort quand même, ils arrivent à moins de 70%. Voilà, donc on n'est quand même pas dans le jour où ça se passera mal, ça se passera très mal pour nous. Voilà, c'est cette grande inquiétude et l'espèce de pari. Vous savez, c'est des proches qui disaient « un jour j'irai vivre en théorie parce qu'en théorie, tout se passe bien ». Et bien, la dette française, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on parie sur le fait que tout va bien se passer, mais un jour, si ça se passe mal, et bien on regardera qui a fait ça. Et le problème d'ailleurs, c'est pas tant la dette contractée pendant la période de Covid, c'est celle qui préexistait avant et qui fait qu'aujourd'hui on atteint des niveaux extraordinaires.
Oui, c'est vrai. Et puis bon, vous avez l'ancien banquier, hein, Jacques Delarosière, qui dit par exemple, de toute manière, même financé à 0%, c'est vrai que la dette elle existe toujours, quoi.
Hein. Et oui, parce qu'on dit, oui, effectivement, les taux d'intérêt sont bas. Bah oui, mais enfin, il faut quand même rembourser le principal. Et le problème de cette dette-là, c'est que pour l'essentiel, c'est une dette qui n'a pas de collatéral, comme on dit souvent, quand on s'endette, c'est pour investir. Si vous investissez dans une route, une infrastructure, que sais-je, un aéroport, n'importe quoi. C'est quelque chose qui vous rapporte, qui rapporte de l'argent à l'économie après. Et là, on a juste investi pour combler les trous. Ouais. Et donc, c'est pas vraiment de l'investissement. Et la banque, elle existe, la dette, elle existe toujours. Et effectivement, peut-être que, alors, soit ce sont nos enfants qui paieront, soit il y a un risque aussi qu'ils payent en ayant une moindre capacité d'endettement et donc d'investissement dans le futur. Il n'y a pas de repas gratuit, comme on dit en économie. Donc, on n'a peut-être pas le choix à court terme, mais c'est quand même un pari sur le fait que dans les prochaines années, tout va bien se passer. Et on n'a plus beaucoup de réserves. Voilà.
Oui, ça c'est vrai. Merci à vous, Étienne Jernel. Donc, c'est à lire dans Le Point, avec aussi un reportage sur le professeur menacé par les islamistes à Trappes, Didier Lemaire.
Et puis, qui était bien sous protection policière, contrairement à ce qu'a raconté Le Monde.
Bien sûr, il était sous escorte et protection, quoi. Ça c'est vrai. Évidemment, il y a un reportage dans le magazine. Et puis alors, il y a une photo hallucinante quand même. Rien à voir, mais sur un autre sujet. C'est au Brésil. C'est la samba contre le Covid. On voit, alors que l'épidémie flambe, le carnaval de Rio est annulé, mais sur la plage, alors c'est incroyable, quoi. Une foule massée, évidemment. Il faut dire que c'est l'été au Brésil, Étienne Jardin.
Oui, c'est l'été. Et puis, ils ont une politique qui est parfois ahurissante, mais en tout cas, c'est intéressant. Ouais. C'est un autre monde pour nous. C'est fascinant d'ailleurs de regarder, si vous regardez l'Amérique du Sud, enfin le Brésil d'un côté, si vous regardez, et à l'inverse, dans une politique beaucoup plus stricte, mais sans Covid en Corée du Sud et à Taïwan, à quel point le mode de lutte européen n'est pas la règle non plus.
Non, mais ça c'est vrai. Merci beaucoup Étienne Jernel d'avoir été avec nous. Dans un instant, on va revenir aussi sur le débat entre
Marine Le Pen et Gérald Darmanin qui s'est passé hier. Oui,
absolument, sur France 2 et avec Philippe Bilger.
Absolument, 8h46, on revient tout de suite, ne bougez pas.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
8h49, merci d'être avec nous, le petit déjeuner de l'actu ce matin avec Philippe Bilger. Bonjour Philippe.
Bonjour Cécile.
Et on va revenir sur ce débat hier sur France Télévisions entre Marine Le Pen et Gérald Darmanin.
Oui, vous l'avez regardé, alors qu'en avez-vous pensé Philippe Bilger ?
Eh bien, il était attendu avec impatience et je dirais que sur le plan de la forme, et ça n'est pas étonnant, on a retrouvé une forme de courtoisie, un dialogue tout à fait, je dirais, presque aimable, avec tout de même un petit peu d'ironie de la part de Marine Le Pen et parfois un tantinet de condescendance de la part de Gérald Darmanin. Mais au fond, la forme ne pouvait qu'être d'une certaine manière courtoise, parce que sans abuser de l'idée, il y avait plus qu'une familiarité entre les deux débatteurs, comme si en réalité, sur les sujets régaliens, ils étaient obligés de forcer l'un et l'autre le trait pour montrer qu'ils avaient des oppositions. Et au fond, si je résume le fond, il m'a semblé que Gérald Darmanin, avec des approximations, a tout de même mis en cause, et assez victorieusement parfois, le caractère très approximatif des dénonciations globales de Marine Le Pen en la renvoyant à des données techniques qu'elle était incapable de fournir, notamment sur sa volonté de faire un référendum. Je l'ai trouvé mal à l'aise dans les domaines techniques, alors qu'elle préfère largement se situer dans des dénonciations globales. Et de l'autre côté, Gérald Darmanin m'a semblé gêné, lui aussi, aux entournures, quand Marine Le Pen opposait son livre à la réalité de son action. Oui. Et pour terminer, Patrick, il y a eu une bonne nouvelle pour Marine Le Pen, indépendante du débat, lorsqu'un sondage a révélé que, très largement, son parti est en tête pour la crédibilité en ce qui concerne la lutte contre l'islamisme pour une grande majorité de Français. Donc, en quelque sorte, c'est indépendant du débat, mais le Rassemblement national, sur ce plan-là, s'est inscrit durablement dans l'esprit public.
Oui, c'est ça. Alors, elle a dit d'ailleurs, pour revenir en un mot aussi, Marine Le Pen, elle trouve que le gouvernement attaque trop les musulmans, alors que c'est l'islamisme qu'il faut cibler. Qu'a répondu Gérald Darmanin ?
Mais c'est Gérald Darmanin a répondu qu'il y avait des formes dévoyées d'islam, sectaire comme il l'appelle, mais vous avez raison Patrick Roger, il y a une ambiguïté fondamentale dans ce projet de loi contre le séparatisme. Qui pourrait nier qu'en réalité, derrière ce projet, l'islamisme est visé, mais pour que le gouvernement n'encourt pas le moindre reproche un petit peu partisan, il a décidé de faire de la police administrative pour l'ensemble des religions. Et donc, il y a en permanence une ambiguïté sur laquelle Marine Le Pen a trop joué et à laquelle Gérald Darmanin, avec une forme de sérénité qui n'était pas dénuée, encore une fois, de condescendance, a répondu en quelque sorte, c'était la réponse du professionnel à la matrice.
Oui, c'est ça. Et donc, dès que l'on aborde en fait des questions techniques et des chiffres, c'est vrai, là vous l'avez remarqué, Marine Le Pen est moins à l'aise, quoi.
Oui, alors évidemment, elle n'a rien de comparable avec ce qu'elle a été en 2017, mais l'adversaire n'était pas le même et elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre des débordements et des dérapages comme ceux qu'elle avait malheureusement offert aux Français. Mais je ne crois pas que ça aura une incidence extrêmement positive sur, je dirais, la manière dont Marine Le Pen sera perçue dans les débats. Elle n'a pas été mauvaise, à mon avis, mais elle n'a pas été à ce point éblouissante que le désastre de 2007 soit compensé.
Oui, 2017. Merci Philippe Bilger, restez avec nous. On va passer en fait à un autre sujet qui nous occupait toute une partie de la semaine avec une histoire qui a ému, hein, Cécile.
Oui, après des jours de bras de fer, vous savez que les squatteurs ont finalement quitté la maison de Roland Lyotard, retraité de 88 ans, qu'ils occupaient depuis 6 mois à Toulouse. Il est avec nous ce matin en direct.
Ah oui. Bonjour Roland. Bonjour Roland.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez appris donc hier soir que les squatteurs ont quitté votre maison. Vous allez pouvoir la récupérer alors.
Oui, je suis très content, très heureux même. Et j'embrasse tout le monde qui m'a aidé.
Oui.
Et moi, je suis content. C'est une deuxième vie, oui, qu'ils m'ont donné. Oui, tous ces gens. Oh, oui. Je suis vraiment heureux.
Oui.
Quelle et solidarité.
Alors, oui.
Oh oui, il y a solidarité, oui. En France, c'est comme ça, on ne se fréquente pas et tout, mais quand il y a des pépins, on se met tous ensemble pour défendre. Hein.
Oui.
Oui, je suis très content, oui.
Ce sont des voisins, hein, c'est ça, Roland, qui sont intervenus.
Oui, ils ont commencé les voisins, et puis après, il y a la télé qui s'est mise et tout, la dépêche, comme j'ai travaillé à la dépêche 37 ans.
Ouais.
Voilà, ils m'ont pas laissé tomber, personne ne m'a laissé tomber.
Ouais.
Alors, je suis heureux.
Ouais, bah oui, parce que Roland, vous allez pouvoir reprendre la maison pour la vendre, parce que l'objectif, c'est de la vendre pour pouvoir aller à l'EHPAD, c'est
retrouver
ça.
Son épouse.
Voilà, pour pouvoir finir ma vie avec ma femme.
Ouais.
Il y a 65 ans qu'on est ensemble, quand même. Je veux pas être séparé comme ça.
Ouais,
et
ouais.
Depuis 65 ans, et je l'aime, ma femme, moi.
Ouais. Ouais.
Même à mon âge.
Ben, bien sûr. Et là, si vous ne pouviez pas vendre la maison, vous étiez un peu bloqué, quoi.
Oui, figurez-vous, bien sûr que j'étais bloqué. Maintenant, ce qu'il va falloir, que j'attende une place, parce que c'est long aussi.
Oui.
Parce que ces maisons, elles sont pleines. Hein.
Oui,
voilà.
Oui, pour avoir une place, évidemment, à l'EHPAD. Est-ce que vous auriez pu imaginer un jour, Roland, qu'on allait occuper illégalement comme ça votre maison ?
Ça m'était pas venu à l'idée, monsieur.
Oui.
Non, non.
Oui,
oui. C'était la maison de mon beau-père.
Oui.
C'était un battant. Il s'était engagé à 18 ans à la guerre. Il a monté trois fois à la guerre de 14. Il a été blessé trois fois. Il est reparti quand même se battre. C'était un homme merveilleux.
Oui.
Il avait toutes les médailles. Hein.
Oui.
Toutes les médailles.
Oui. Comment
c'était un Vendéen.
Ouais,
vous
oui.
savez, les Vendéens, les Chouans, ils en veulent. Hein.
Ouais. Est-ce que vous avez au téléphone les gens qui vous ont aidé? La Bilel, par exemple, à Mérou, Bilel, qui est un voisin. Non
mais c'est-à-dire que j'ai dit que mon âge, j'étais âgé, que des fois à la télé, au téléphone, j'entendais pas.
Ouais.
Et alors, ma fille, elle m'a dit, j'ai eu une trentaine de coups de fil.
Ouais.
Et ils ont plutôt téléphoné à ma fille.
Ouais.
Et elle est partie, hier soir, quand ils ont su qu'elle était partie, elle est restée toute la nuit à Toulouse, et je ne sais pas, elle ne m'a pas téléphoné, je ne sais pas ce qui s'est passé.
Oui, oui, oui.
J'avais peur quand même, toute seule, qu'ils reviennent. J'ai dit, ne reste pas toute seule, son mari me dit, elle est partie, et elle est toute seule à Toulouse, elle a passé la nuit là-bas.
Roland, vous savez ce qu'il a dit, Bilal, il a dit, j'ai le cœur beaucoup plus léger pour ce papy qu'il vive en paix maintenant. Ça, c'est votre voisin.
Ah bon, très bien.
Oui, vous l'aurez au téléphone. Je pense que on vous le mettra en fait au téléphone pour évidemment
mon
le
voisin qui c'est avant.
C'est Bilal. Il est du quartier. Quartier, oui.
Oui, Monsieur Pichère, je l'en aurais pas.
Oui.
C'est le voisin qui touche ma maison.
On ne sait pas, mais en tout cas, c'est celui qui a permis au squatteur de partir.
Ouais.
Oui, ah bon.
Ouais. Et Roland, comment vous l'avez vécu là, ces derniers jours? C'était dur.
Ouais. Bien sûr, c'était dur. Dans ma tête, il fallait que je fasse quelque chose. Mais quoi? Je ne savais pas.
Ouais.
Et j'ai fallu qu'elle fasse quelque chose de très mal. Ouais. Même, voyez, je vous le dis franchement, peut-être à cette heure-ci, si je n'étais pas parti, je serais en prison. Voyez, j'avais des mauvaises idées. Parce que j'avais voulu moi-même les sortir.
Ouais.
Parce que j'ai ce qu'il faut, et j'allais aller les sortir. Ouais. Et je ne sais pas comment ça se serait passé.
Ouais. Mais comme quoi, il ne faut pas forcément utiliser la force, et puis ce qu'a fait Bilal.
Dans des cas comme ça, ils étaient têtus, hein. Ils voulaient rester, ces messieurs. Comme si c'était chez eux, ni rien. Et qu'est-ce que c'est ça? Cette agence.
Ça se termine bien. Vous allez pouvoir vendre le pavillon.
Je remercie tout le monde et je les embrasse très fort à tout le monde.
On vous embrasse aussi, Roland, et votre épouse.
Et votre épouse.
Et votre
fille.
Oui. Et votre fille.
C'est bien gentil, merci.
Merci
d'avoir été... Et prenez bien soin de vous, Roland.
Ouais, merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio, Roland. Merci.
Merci. Voilà, ça c'est bien, c'est bien passé avec le téléphone, c'est bien.
Oui.
Comme j'ai un portable, je crois qu'il va falloir que je recharge.
Ouais. Ah ouais, d'accord, très bien. On vous embrasse, Roland. Passez une très belle journée.
Merci.
On vous embrasse bien fort.
Et merci, bonne santé surtout et... Bon travail, si vous en avez.
Oui, c'est pas fini.
Et on revient dans un instant. Merci beaucoup, Roland.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h03, on continue le petit déjeuner de l'actu. On va revenir sur le coronavirus qui serait présent sur le territoire français depuis l'automne 2019, selon plusieurs chercheurs. On en parle ce matin avec le docteur Michel Smith, qui est chef du département d'imagerie médicale de l'hôpital Albert Schweitzer de Colmar. Merci d'être avec nous. Bonjour.
Merci à vous.
Oui, bonjour docteur Schmitt, merci donc d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. On est allé vers vous cette semaine parce qu'il y a eu cette enquête qui a été la mission de l'OMS à Wuhan. Et dans les conclusions, alors c'est un peu flou, ils n'ont pas eu beaucoup d'éléments visiblement, mais ils retiennent toujours la date du mois de décembre, c'est ça, sur le marché de Wuhan. Vous, à travers l'imagerie médicale et des rapports de quelques généralistes, vous semblez dire que visiblement le virus il circulait un petit peu plus tôt dans votre région à Colmar, et on expliquera pourquoi à Colmar. Docteur Schmitt.
Oui, j'ai pas un très bon retour son.
Visiblement, vous avez eu dans la région de Colmar l'impression, à travers l'analyse de l'imagerie médicale, que le virus était présent dans votre région avant le mois de décembre.
Alors, les études que nous avons menées ont procédé des constatations faites durant la phase épidémique au mois de mars, au mois d'avril, où nous avons eu des dizaines et des dizaines de dossiers de patients Covid tous les jours. Mmh. Et la réflexion a porté au niveau de l'équipe sur deux thématiques. La première, c'est de se rendre compte que durant tout l'hiver, à la fin de l'automne, nous avons été confrontés à des cas dits de grippe qui étaient tout à fait atypiques, par leur durée, par leur forme, par leur intensité, donc un étonnement au niveau du service. Et de fait, nous avions rencontré beaucoup d'images atypiques que nous avions classées comme virus atypiques, sans trop savoir ce que c'était, première chose. Deuxième chose, il est évident qu'un pays ne s'endort pas en bonne santé pour se réveiller épidémique le lendemain. Et qu'entre un premier patient malade et une épidémie, se déroulent des semaines, voire des mois. C'est-à-dire qu'un patient atteint, ou un porteur viral, même s'il n'est pas patient atteint, va en contaminer trois éventuellement en 10-15 jours, lesquels trois peuvent en contaminer trois autres, on sera donc à 9 une quinzaine de jours après, soit un mois après l'arrivée du virus, et ainsi de suite. Et l'épidémie ne se déclenche que lorsqu'on atteint un volume, dit volume critique de patients. Et là, on échappe à tout contrôle, parce qu'il y a tellement de patients qui eux-mêmes ont contaminé trois, qu'on assiste à l'explosion épidémique. Donc, il est évident médicalement, sur un plan épidémiologique, que 6 épidémies au mois de mars, il est évident qu'il y ait des virus présents sur le territoire des semaines, voire des mois auparavant. Donc, notre stratégie a consisté à reprendre, à relire tous nos scanners, rétroactivement jusqu'au mois d'octobre dans un premier temps. Là, actuellement, on remonte au mois d'août pour voir si on retrouvait des choses. Et de fait, les images que nous avons classées comme atypiques correspondaient stricto sensu aux images de Covid typiques reconnues après le mois d'avril. Alors, bien évidemment, à l'époque, vous le savez, il n'y avait pas de test PCR,
oui.
Il n'y avait pas de sérologie, donc il n'y avait pas de preuves biologiques. Pour autant qu'on puisse parler de preuves biologiques, parce qu'on sait tous que les tests PCR avaient à l'époque jusqu'à 32% de faux négatifs, et les tests sérologiques avaient eux aussi leur lot de faux négatifs. Oui. Le débat a été relancé il y a quelques semaines, suite à la publication d'une étude italienne qui a repris notre méthodologie, en l'occurrence l'Université de Florence, qui a repris tous ces scanners, dans la mesure où l'Italie dépiste le cancer du poumon par scanner. Donc les dossiers ont été repris, et les Italiens signalent des images de type Covid au mois de septembre.
Au mois de septembre,
oui. Au mois de septembre. Et hier est sortie une étude de l'Inserm, qui relance tous les débats justement aujourd'hui. Et l'INSERM retrouve des traces de virus avérées sur des prises de sang qui avaient été conservées dès le mois de septembre, au mois d'octobre 2019. Donc nous avons une confluence d'éléments qui nous donne à penser que le virus, enfin, qui nous prouve maintenant que le virus était présent en France dès l'automne. Alors, j'aurais tout de suite coupé.
Dès l'automne, donc il faut bien dire, hein, repréciser, dès l'automne 2019, hein, c'est pas l'automne dès dernier. L'automne... Hein. Non, mais pour les gens qui prendraient la conversation en cours, hein, non, mais c'est vrai. Hein,
ouais. Non, dès l'automne 2019. Alors j'aurais coupé court à une polémique à laquelle on est confronté régulièrement actuellement, qui est de dire s'il y avait du virus en France avant que l'épidémie n'existe en Chine, c'est que le virus vient d'Europe. Et là, je voudrais bien que tout le monde comprenne qu'entre quelques cas sporadiques, ce qui est le cas de notre étude et de l'étude de l'INSERM, et l'épidémie qui a été déclarée en Chine, il y a un monde.
Oui.
Pour qu'il y ait épidémie, il faut qu'il y ait des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes malades. Là, notre étude ne parle pas de milliers, elle parle de quelques cas par-ci, par-là, qui ont conflué progressivement pour devenir de plus en plus nombreux et déclencher l'épidémie que nous avons connue au mois de mars et qui se poursuit aujourd'hui. Donc, dire qu'on avait des virus en Europe fin 2019 n'est pas du tout contraire au fait qu'il y ait une épidémie en Chine, et il n'y a pas de corrélation entre les deux en termes statistiques, en termes mathématiques.
Oui. Et est-ce que, docteur Schmitt, à partir de ces scanners-là, les personnes en question, est-ce qu'elles ont fait des formes graves? Est-ce qu'elles en sont décédées ou pas
Alors, on a eu de tout. Si vous voulez, la population que nous avons étudiée est une population tout venant. Autrement dit, on avait des personnes qui venaient pour des pneumopathies plus ou moins graves, on avait des personnes de réanimation, et il y avait tout un lot de personnes qui venaient pour tout à fait autre chose, des traumatismes, des problèmes cardiovasculaires, des suivis de cancer et autres. Et on a trouvé tout à fait par hasard ces images qu'on a reconnues pour être Covid après. Autrement dit, parmi cet ensemble de personnes, il n'y en a pas des centaines, il y en a une dizaine à l'automne 2019. Parmi ces centaines, certaines sont décédées de leur pathologie pour laquelle elles sont venues, que ce soit des cancers, des problèmes cardiaques. D'autres sont guéries, tout en demeurant très, traumatisées parce qu'elles ont vécu.
Ah oui.
Ils retrouvent là ce que vivent les personnes Covid en termes de détresse respiratoire, de troubles familiaux, de conséquences psychologiques, etc.
Ouais, ouais. Ce qu'il faut expliquer, hein, Dr Schmitt, et pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport en fait à la rumeur ou à l'information, c'est vrai que Colmar, pourquoi ? Bien parce qu'il y a énormément de touristes chinois, notamment, hein, qui viennent à Colmar parce qu'il y a, je crois que c'est une auberge, hein, etc., qui est dans une série en Chine qui est très populaire, et résultat, ça faisait partie des escales en France, si je puis dire, quand on venait visiter la France, on passait par... Et ça peut peut-être venir de là, quoi, hein, non ?
Peut-être.
Oui,
c'est une explication possible. Il y en a d'autres. Il y a des Français qui vont en Chine, des industriels qui vont d'un pays à l'autre. Et n'oublions pas que le virus n'est pas venu forcément de Chine en France, pour autant qu'il vienne de Chine. Il a pu venir en Allemagne, ou dans un aéroport Francfort ou Londres, ou peu importe. Une personne revenant de Chine a croisé une personne française, etc. On ne peut pas tracer le parcours. Je pense qu'on pourra le faire en étudiant bien les gènes des différents virus. Vous savez que les virus mutent, on en parle beaucoup en ce moment. Et on peut fort bien, il faut du temps, on peut fort bien faire une cartographie des mutations et donc remonter au fil du temps, de proche en proche, et comprendre ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on en est loin parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas l'argent, mais l'étude est réalisable. Est-elle souhaitable, cette étude ? Je pense que oui, pour comprendre. Pour comprendre, parce qu'on est qu'à l'aube d'une période où on aura des épidémies de plus en plus souvent, ne serait-ce à cause du réchauffement climatique, de la fonte des glaces, etc. Et il serait dommage de ne pas profiter du schéma viral que nous avons actuellement pour ne pas comprendre, pour ne pas remonter et pour ne pas essayer de démonter un jour ces chaînes épidémiques telles celles qui se sont mises en place tout récemment.
Oui, et avec évidemment les mutations, hein, c'est ce que vous avez évoqué. Vous êtes concerné là, dans l'Est, on l'a vu en Moselle, par l'apparition des variants, et notamment sud-africains et brésiliens, docteur Schmitt.
Oui, je ne peux pas trop en parler, on en parle beaucoup en Lorraine. Chez nous en Alsace, très honnêtement, on en voit très peu. Et je n'en ai pas connaissance à titre personnel. Ceci étant, ça échappe de ma compétence.
Oui, bien sûr.
Moi, je dépiste des images qui sont analysées, mais je ne rentre pas dans les notions.
Qui ont été, d'ailleurs, je précise au passage, parce qu'on ne l'a pas suffisamment souligné, l'imagerie médicale qui a été quand même assez importante pour pouvoir voir ces traces en fait, de Covid l'intérieur en fait, du corps. Il n'y avait pas que les tests PCR, mais pour voir aussi comment on a été touché et affecté, docteur Schmitt.
Pour ne rien vous cacher, chez nous, dans notre hôpital, le premier diagnostic de Covid a été posé au scanner. En confrontant nos images à des publications américaines et chinoises, on a posé notre premier diagnostic le 27 février, chez un patient qui est décédé le 3 mars. Le rôle de l'imagerie au printemps 2020 n'est plus du tout le rôle d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en 2020, on n'avait pas de test. Et la seule façon de s'orienter Covid était de faire des scans, de reconnaître des images et de suivre les évolutions. Après sont arrivés les tests. Et aujourd'hui, nous poursuivons notre étude. Nous en sommes à 8500 scanners approximativement d'étudiés. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans le même schéma. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne dépiste plus le Covid par scanner. On peut trouver des cas de façon épisodique tout à fait par hasard, et on se sert par contre du scanner pour apprécier la gravité des lésions, ce qui n'est pas vraiment le cas l'année dernière, donc une évolution des techniques.
Merci beaucoup en tout cas pour votre éclairage, docteur Michel Schmitt, chef du département d'imagerie médicale de l'hôpital Albert Schweitzer à Colmar. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.
Merci beaucoup, passez un bon week-end, et on fait un point au 0826 300 300, avec Cédric qui était avec nous. Bonjour Cédric.
Oui, Cédric, vous vouliez réagir donc sur le Covid justement.
Oui, en effet, le Covid qui impose encore plus ces inégalités en France et qui font que les restaurateurs ou tous ces gens-là ne peuvent malheureusement plus travailler. Ouais. Donc je pense qu'en effet, il faut arrêter de parler de cas quand une personne n'est pas malade, mais juste une personne positive, c'est tellement plus réaliste. On insiste trop sur les malades. Il n'y a pas 30 malades en France. On est quand même un pays, on a la sixième puissance mondiale. On a 2700 personnes en réanimation. C'est triste. Et de là à confiner la France et de nous obliger à rester. Il faut des gestes barrières. Oui, il faut se protéger. Parce qu'en effet, ce n'est pas une lubie. Ce virus, il est vraiment là. mais je pense qu'on en fait beaucoup trop, et les journalistes, encore heureusement Sud Radio, se bat un peu pour rétablir un peu cette...
donner toutes les versions, quoi, c'est ce qu'on essaie de faire.
Oui, d'équilibrer les choses.
C'est ça qui est génial. Ouais. C'est ça qui est génial. Je suis fan de Sud Radio, et notamment d'André Barkov, c'est génial, parce qu'en effet, on voit qu'en effet, il n'y a pas une seule vérité, il y en a tellement divers. Ouais. C'est ça, cette diversité française, il faut laisser la parole aux gens, il faut laisser ce qu'on s'exprime, et aujourd'hui, on s'exprime plus, on est confiné à 18h, ces restaurateurs qui trouvent toutes les possibilités pour nous quand même nous faire une fête de Saint-Valentin à la hauteur de ce qu'on aimerait, mais c'est pas jamais le cas. Ouais, ouais. C'est excessif, quoi. Les rondes et mécaniques qui sont fermées. Ouais. Il n'y a plus de liberté en France quand je vois Elisabeth Lévy qui parle d'un passeport vaccinal, mais au secours, quoi. Pourquoi pas une étoile sur le
Ah bah oui, mais vous l'avez entendu, elle a expliqué pourquoi elle était favorable à ça. Bon, et justement, il y a tous les avis.
Et alors la grippe, alors il faut faire un passeport vaccinal pour la grippe aussi, alors. Et pour toutes les maladies qui existent.
Ouais.
Mais c'est une maladie qui est très peu létale. Pourquoi est-ce qu'on en fait autant?
Elle peut quand même engendrer, vous l'avez vu, des morts quand même. On ne peut pas le nier, ça, Cédric.
On
ne
peut pas dire que c'est très peu de morts.
Bien sûr, on ne peut pas la nier complètement. On voit un bébé de 3 ans en Belgique qui, soi-disant, est décédé du coronavirus, ce qui n'est pas le cas, le père...
Il y a tout qui circule. Non, mais c'est vrai, vous avez raison, Cédric, il y a tout qui circule. Cédric, je vous propose de rester en fait avec nous et d'écouter Emmanuel Hirsch qui va être avec nous, invité jusqu'à quasiment 10h moins le quart. Il est professeur d'éthique médicale à la faculté de médecine, président du conseil pour l'éthique de la recherche et de l'intégrité scientifique, c'est très complet, de l'université Paris-Saclay. Et il se pose un certain nombre de questions, il
en
nous pose
et
il nous interpelle, nous interpelle également par rapport justement à cette éthique et à la démocratie, à la façon dont on gère les choses. Vous verrez, c'est particulièrement intéressant, percutant. Restez avec nous, on en parlait, vous pouvez nous réagir 0826 300 300.
Ça s'appelle Une démocratie confinée aux éditions RS. À tout de suite.